Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Bonsoir Étienne Brack, un début d'année difficile pour les startups françaises après les sommets atteints pour la période post-Covid. Les levées de fonds avaient déjà drastiquement ralenti en 2023 et ça ne redécolle pas en 2024, sauf pour quelques-uns, on en parlera de Pigment dans un instant, mais voilà, ça reste compliqué, ça cale un peu pour les startups françaises.
Oui, la normalisation se poursuit d'après le baromètre d'EY qui a été publié, avec notamment une compilation des levées de fonds au premier trimestre pour la French Tech. Ça concerne la France uniquement, ces données, avec des startups qui ont levé 1,8 milliard d'euros au premier trimestre. C'est une baisse de 5% par rapport au premier trimestre de l'année dernière, qui, rappelons-le, était un trimestre très compliqué, puisqu'avec la remontée des taux, la fin de l'argent gratuit, il y a un an, on avait une baisse de 58% des levées de fonds par rapport à 2022. Par contre, en termes de dynamique, vous avez toujours autant de tickets, approximativement 200 tickets depuis deux ans au premier trimestre. Ça prouve bien que vous avez des volumes qui sont toujours là, mais des tickets moins importants. On le voit, il y a beaucoup moins de licornes depuis le début de l'année, de nouvelles licornes. Donc là aussi, ça se normalise avec, rappelons-le, une dynamique l'année dernière qui avait été en forte baisse, puisque vous avez 8,3 milliards d'euros qui ont été levés en 2023, moins 30% par rapport à 2022, qui avait vraiment été le pic. Et ça suit vraiment la remontée des taux, puisque la BCE a commencé à relever ses taux il y a bientôt deux ans. Donc la fin de l'argent gratuit, une visibilité qui est un peu plus réduite, et puis aussi des investisseurs qui sont plus exigeants, qui demandent des start-up avec la portée de cash un peu plus rapide. On a des investisseurs qui sont beaucoup moins patients. Donc là aussi, forcément, ça se voit dans les chiffres. Pour rappel, les secteurs qui se distinguent en termes de levée de fonds, la green tech, très largement. On se souvient que l'année dernière, beaucoup de green tech avaient levé de l'argent. C'est quasiment un tiers des montants qui ont été levés l'année dernière. S'en suivent à la deuxième position et troisième position le secteur des logiciels et des sciences de la vie à 13 et 14%. Donc vous voyez, il y a un grand écart entre les leaders et le reste.
Merci Étienne Brack pour toutes ces précisions et on va reparler avec nos invités tout de suite. Je vais démarrer avec, je vous rappelle, Zoé Moll qui est associée chez Balderton Capital, Enguerrand Renaud, consultant chez Image 7, et Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de Mon Carnet Numérique, Mon Carnet de l'Actualité Numérique depuis Québec. Zoé, associée chez Balderton, donc tu es au cœur de tous ces investissements. Oui, c'est ce que tu ressens aussi depuis sur ces trois années.
Je pense que ça a été bien résumé par Étienne. Les taux d'intérêt bas, ça veut dire que les classes d'actifs plus risquées ont plus de sens. Quand ça remonte, ça a un petit peu moins de sens. Pourquoi est-ce qu'on prendrait tels risques si on peut avoir des rendements peut-être un peu moins bons, mais ça dépend là où vous investissez, mais un petit peu moins bons, mais très sûr. C'est certain. Après, on n'est pas trop mal loti. 5%, c'est vraiment pas grand-chose. Et je veux pas être alarmiste, mais une baisse de 5% des levées de fonds pour les startups, c'est une chose. On a vu une baisse de 70% des levées de fonds pour les fonds d'investissement français entre 2022 et 2023. Les fonds d'investissement ont levé 1,3 milliard versus 7,7 milliards. Folie des grandeurs d'avant, peut-être. C'est en train de se restabiliser. Mais d'un point de vue un peu plus empirique, à mon échelle, de ce que je vois en ce moment, on est en début Q2 2024. Moi, je commence à voir que ça se réanime tout ça.
Je trouve d'ailleurs dans les levées de fonds que l'on reçoit, on commence à revoir des levées de fonds au-dessus de 20 millions d'euros, 20 millions de dollars en Europe, chose qu'on voyait beaucoup moins là sur les six derniers mois. Quand quelqu'un levait 12, on se dit c'est super. Et là, c'est vrai qu'on revoit un petit peu quelques montants
Pour résumer, effectivement, comme Étienne l'a dit, on a autant en nombre d'opérations, mais elles ont été beaucoup plus petites. Le nombre d'opérations à plus de 50 millions a baissé de 50%, ce qui est moins qu'en Allemagne et dans d'autres géographies. Donc on n'est pas trop mal loti. Mais la raison pour laquelle on a autant d'opérations, c'est parce que l'écosystème est devenu beaucoup plus mature en amorçage.
Vous avez investisseurs plus exigeants aussi.
Oui, mais il y a quand même, encore une fois, il y a plus d'opérations tout au début. Donc il y a plein de bébés start-up qui ont été créés. C'est pour ce qui est après qui a été plus difficile. Quand on lève à des valorisations très importantes, parce qu'on est dans un marché porteur et qu'on doit lever le prochain tour de financement, c'est plus difficile.
On a l'impression que sur le marché français, on a un peu fait deux pas en avant, un pas en arrière, parce qu'on retrouve un peu ce que l'on disait avant la situation Covid. Hein, c'était toujours ça. On avait, au début, les entreprises avaient pas trop de mal à lever des fonds, mais après, quand il fallait passer à l'étape suivante, c'était toujours un peu compliqué. Et on revient un peu à cette situation-là, non, de 2018-2019.
Ouais, peut-être pour oui, c'est à peu près ça. En fait, quand on lève un beau seed ou une série A vraiment en amorçage, on ne sait pas encore prouver. En général, on a moins d'un million de revenus récurrents. C'est après que ça se complique, surtout dans un environnement où c'est plus difficile de vendre à des clients enterprise comme Pigment le fait. Donc chapeau à eux, c'est vraiment très très difficile dans un environnement qui se contracte. Donc oui, après il faut faire ses preuves pour lever les plus gros rounds.
Enguerrand.
Non, moi ce qui m'intéresse toujours dans ces sujets et j'ai longtemps regardé, c'est deux choses. C'est d'une part tu l'as dit, Zoé, à un moment, il y a la folie des grandeurs. Donc là, souviens-toi, il y a, en 2022, les tickets à 100 millions, il y en avait, très régulièrement.
Moi, je me souviens toujours sur BFM Business, je crois qu'on a eu trois en 36 heures.
Voilà. Donc, on s'était bêtement habitué aux tickets à 100 millions. On revient
à 500 millions. Hein,
voilà. On revient à des considérations un tout petit peu plus raisonnables. Zoé parlait de revenus récurrents et on va en parler avec Pigment. C'est-à-dire l'ARR, le revenu récurrent, c'est-à-dire on regarde effectivement ceux qui sont capables de vendre. Et puis on commence à regarder, alors pas dans les phases d'amorçage, parce que par définition ça ne marche pas, mais on leur demande à ces startups, non pas de croître à l'infini, mais de devenir rentable à un horizon, j'allais dire, raisonnable. Donc les demandes ont changé. Et ce qui m'intéresse aussi, et ça c'est Zoé qui va pouvoir nous répondre, c'est-à-dire il y a une notion qui est très importante, c'est ce qu'on appelle en bon français la poudre sèche, c'est les réserves. Est-ce qu'il en reste un tout petit peu sous le pied dans les fonds? Parce que si les taux d'intérêt baissent, est-ce que ça va reprendre immédiatement parce qu'il y a des réserves, mais ou est-ce qu'il va falloir attendre que les fonds retrouvent de l'argent chez les sponsors? Et ça, c'est une question de timing.
Oui, mais visiblement, les fonds ont du mal à lever. Donc, est-ce qu'ils ont de l'argent si ça repart?
Oui, en fait, pourquoi est-ce que les fonds ont du mal à lever? C'est pas juste parce que les taux d'intérêt sont remontés, c'est aussi parce que les perspectives d'exit, donc comment est-ce que les fonds d'investissement font un retour sur investissement, y en a de moins en moins. Côté IPO,
on a arrêté
complètement, c'est en train de reprendre, mais vraiment tout doucement. Côté acquisition, M&A, ça a été quand même très compliqué. Et même les belles opérations qui étaient censées être menées à bout, type Figma, ont été contrées par les gouvernements.
Soit elles ont été contrées, soit les belles opérations, c'est des entreprises beaucoup plus matures
Acheter
à quelques milliards. Et dans les startups, c'est vrai qu'on a moins vu de...
Mais ce sont ces retours sur investissement qui justifient qu'un fonds retourne voir ses LPs et dire... Je vais faire un quatrième, cinquième fonds et je vais investir. Oui, il y a pas mal de facteurs différents. Est-ce qu'il y a de la dry powder? Oui, il y en a. Mais en fait, on s'est retrouvé dans une situation où les startups arrivaient à un certain niveau de maturité qui devait se prouver après une première belle levée, sont retournées toquer aux portes des investisseurs en disant, en pensant que ce serait facile parce qu'il y a beaucoup de poudre blanche. Et en fait, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Il y a eu un moment un petit peu étrange où les deux sont un peu regardés en se disant « Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là » Et on sent, moi en tout cas, je ressens que c'est en train de repartir. Il y a des belles levées de fonds qui sont en train de se faire.
Sur les domaines, là, Étienne Braque nous dit, c'est la green tech, c'est les life science, c'est les logiciels, voilà, d'accord avec... ça correspond.
Oui, c'est-à-dire qu'on est passé.
Alors évidemment, il y a l'IA derrière tout ça. Alors,
on est passé d'une folie des ce qu'on appelait les applications. Le logiciel, ça a toujours été là. Il y a eu la folie des applications, puis après il y a ce qu'on appelle la deep tech, c'est-à-dire avec des c'est des véritables inventions, c'est de la recherche qui sort des laboratoires, qui a besoin, parce que le passage d'un laboratoire à l'industrie, c'est extrêmement compliqué.
Déjà pour la régulation, tout ce qui est les réglementaires,
ça,
etc.
Ça nécessite beaucoup d'argent. Ça nécessite beaucoup d'argent. Et on le voit, il y a des nécessités, la green tech. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un besoin dans le monde de lutter contre le changement climatique. Donc ça devient une nécessité.
Bruno, toi qui vois tout cela, alors déjà comment ça se passe aussi au continent nord-américain et sur ta partie le nord du continent nord-américain, et puis comment tu regardes aussi ici, outre-Atlantique?
C'est sûr que Quand on regarde ça de l'extérieur, puis je le suis parce que bon, je parle à des gens, puis aussi je fais un peu ce qui se passe par le biais de BFM Business. Mais ce qu'on sent, c'est que justement, il y a eu une période de ralentissement très sérieuse, et là, tranquillement, pas vite, moi, je sens quand je parle à des gens, je sens que c'est en train de reprendre. Mais il manque encore un peu de confiance, mais on sent qu'on veut que ça reprenne. Et si je compare à ce qui se passe du côté de l'Amérique en général, je regardais encore, il n'y a pas tellement longtemps, un rapport de chez Deloitte qui disait que pour les 6 prochains mois devant nous, il fait bon, il faut investir, il faut acheter, il faut nourrir les nouvelles pousses. Mais puis on est dans le même domaine, hein, la green tech, tout ce qui est... Oui, exactement. C'est la même volonté d'essayer de trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui pour l'ensemble de la planète. Et ce secteur-là, il est très prometteur. Et on sent que les capitaux sont là. Mais un peu comme chez vous, maintenant, les gens qui investissent demandent beaucoup plus de détails. Oui. Et on est très loin de l'époque où il y a 20 ans, il y a 24 ans, où je me souviens d'avoir été présent dans des sessions de pitch d'entreprise à San José, où l'entrepreneur, il y avait une série d'entrepreneurs qui avaient 5 minutes pour présenter leur entreprise, et puis après, il y avait des chèques de millions de dollars qui signaient sur le coin de la table en disant, avec une carte d'affaires, en disant, vous contacterez mon avocat, on investissera un petit peu plus tard la semaine prochaine. On n'est plus là. Les investisseurs sont sérieux et demandent que les entreprises fassent leurs devoirs et prouvent qu'elles seront rentables sur un laps de temps beaucoup plus réduit que ce qui était demandé auparavant. Puis ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, autant pour les investisseurs que même les entrepreneurs eux-mêmes, parce qu'ils doivent vraiment faire leur devoir.
Oui, puis les investisseurs ont acquis aussi une certaine maturité, notamment dans tous ces univers de la tech. Ils sont un peu moins à voir sur des potentiels technologiques qui allaient révolutionner la planète. Je me souviens de l'anecdote c'est Sergey Brin et Larry Page qui vont chez Andy Bechtolsheim et pour, comme ça, juste la présentation de Google, bon, il leur avait fait un chèque de 100 000 $ à l'époque. Donc, je pense qu'il l'a depuis largement rentabilisé. Avec tout ça, ça nous fait Pigment, une nouvelle licorne française en Enguerrand.
Alors, effectivement, quand il y a un très beau dossier, et Zoé nous le dira, là, il y a de l'argent. On l'a vu pour Mistral, qui a levé plus de 300 millions d'euros. Là, on le voit pour Pigment, qui est une très belle société. Tout le monde, et vous l'avez détecté très en amont. Effectivement. Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu de l'argent? Alors, de ce que j'ai lu, c'est en avance. C'est-à-dire qu'ils n'en avaient même pas besoin. Oui. C'est-à-dire que c'est les investisseurs.
On rappelle, c'est un outil de planification stratégique. Voilà,
un outil de planification financière et budgétaire qui a pour ambition extrêmement intéressante de remplacer Excel.
De remplacer Excel et de fournir aussi des simulations. Excel, voilà.
Et de faire des simulations. Ça a été tout de suite adopté par les sociétés de la Silicon Valley. Vraiment, tout de suite. Alors que c'était vraiment un outil totalement débutant. Et ils ont réussi, donc ça leur a donné un certain prestige. Ils ont réussi à passer maintenant sur les grands comptes. Et ça c'est très intéressant, parce qu'un grand compte, ça fait du revenu récurrent. Voilà. Et quand on est en logiciel, il faut avoir le revenu récurrent. Et donc, ils ont triplé leur revenu récurrent. Et donc, ils ont prouvé que ça fonctionnait auprès des grands comptes, auprès des startups, auprès des petites entreprises, auprès des grands comptes. Et là, les fonds d'investissement, sans qu'on leur demande, ont remis de l'argent pour préempter. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais pour préempter d'autres fonds d'investissement.
C'est très important en ce moment.
Voilà. Alors, Zoé va peut-être nous expliquer. Mettre 145 millions d'euros
pour préempter. Et puis, avec des fonds sérieux, il y a un fonds, c'est présidé par, je sais pas si c'est présidé, mais en tout cas, lié à l'intérieur, c'est Sheryl Sandberg, l'ancienne numéro 2
de Meta. Ça, c'est très important. C'est pas président. Tellement pour le montant d'argent qu'elle va mettre dans le Pigment, c'est pour son carnet d'adresse.
Ouais.
Sheryl Sandberg connaît la terre entière.
Exactement.
Donc, ça veut dire que c'est la meilleure VRP de Pigment. C'est la meilleure VRP qu'il pouvait imaginer.
Zoé.
Ouais, 50% de son revenu est déjà aux États-Unis auprès de grands comptes type Unilever, Datadog et autres. Et Sheryl Sandberg, ça doit être. Ouais, c'est un choix extrêmement judicieux. Donc, ils ont fait ce tour de financement avec le même investisseur que le tour précédent, Iconic Growth. Super fonds d'investissement américain qui est de plus en plus implanté en Europe. On les connaît bien. Et effectivement, pour revenir sur ton point, en fait, quand on passe cette première phase de première levée de fonds d'amorçage de série A et qu'ensuite il faut se prouver, en fait, il y en a assez peu dans cette période qui se sont prouvés autant que Pigment. Parce qu'ils ne sont pas juste prouvés sur le 3X, ils n'ont pas juste triplé leurs revenus. Ils ont réussi à tripler leurs revenus et avoir la moitié de leurs revenus aux États-Unis auprès de grands comptes. Au sein de ces comptes, ne pas juste être utilisé par la direction financière, mais oui, par plein d'autres business units de
l'entreprise. Et l'IA générative va leur faire un bien fou. Va en plus accélérer tout ça.
Ils ont intégré un peu d'IA générative déjà dans leurs produits, mais je veux dire, c'est quand même très impressionnant d'arriver à faire
très
tout ça.
Très impressionnant.
Parce qu'il faut voir, hein, on a vraiment, enfin moi j'ai déjà vu tourner ce logiciel, on peut carrément faire des simulations, de dire tiens, le taux de change va bouger de 12% entre le dollar et l'euro, qu'est-ce que ça signifie pour mes revenus États-Unis, France, etc. Donc du coup, hop, je peux planifier, me dire bah tiens, je vais peut-être accentuer ma présence à tel endroit. Enfin, c'est assez
impressionnant. Si je perds ces deux clients, quel sera l'impact dans deux quarters sur mon revenu. Je veux dire, Excel, j'adore Excel, j'utilise Excel souvent, mais c'est quand même un logiciel ancien, très ancien. Et la raison pour laquelle on l'utilise tous, c'est parce que bon, il y a de la familiarité, mais surtout parce qu'il y a un network. Ouais. Tout le monde utilise Excel.
Ouais. Ouais. Donc, on se comprend.
Peut-être que le prochain network sera Pigment.
Il y avait aussi une société qui a longtemps été dirigée par un Français, une société américaine qui s'appelait Anaplan.
Anaplan, et qui existe toujours. Hein,
qui existe toujours.
Qui marche plutôt bien aussi.
Qui a connu une croissance assez fulgurante. Il me semble qu'elle est moins importante maintenant.
Oui.
Mais qui avait déjà attaqué cet outil de planification stratégique.
Ils ont été rachetés 10 milliards par Thomas Bravo.
Oui, c'est ça. Par le fond Thomas Bravo. Bruno, parmi tout ça aussi, on voit, alors on reste dans cet univers du logiciel. C'était l'AWS Summit hier, donc le grand rendez-vous, plus de 10 000 personnes à Paris, porte maillot. Hein, on y était bien sûr avec Tech & Co Business. On y revient ce week-end. Et Amazon, a présenté sa plateforme Bedrock. Bedrock, avec ou sur laquelle on va pouvoir l'entreprise cliente de cette plateforme va pouvoir utiliser du Mistral, du Stability, du Claude 3 d'Anthropic. Voilà, qu'est-ce que tu déjà plutôt pas mal pour notre français Mistral qui commence à se positionner, hein, présent chez OpenAI, présent là aussi. Comment tu regardes aussi on voyait AWS beaucoup plus discret, on les entendait, ils investissaient dans Anthropic, ils investissaient dans Stability, dans différentes entreprises, mais voilà, ça sortait pas, et puis là, ça y est, c'est arrivé.
Ben, c'est drôle parce que ce matin, je faisais une entrevue avec un des représentants d'AWS et je lui posais justement des questions sur l'introduction de Mistral à l'intérieur de l'outil Bedrock. Et ça fait quelque temps que l'outil est là, mais là, c'est Mistral large qui arrive, qui est disponible. Donc, l'outil ultime qui a été développé par l'entreprise française. Et ce que ça permet de faire, ça permet de consolider la solution d'AWS, le fameux Bedrock, là, les outils. Ça permet de consolider l'outil en Europe parce que les autres outils sont faits principalement aux États-Unis. On pense à Anthropic, on pense à Meta, qui a aussi des outils à l'intérieur de Bedrock. Mais là, on parle d'un outil qui est développé et qui est natif européen, si vous voulez, et qui répond très bien aux demandes et aux réalités, incluant culturelles, qui sont propres à l'Europe. Et ça, c'est pas banal. Ça répond aussi à certaines demandes de la part des entreprises, des organisations européennes qui veulent travailler avec des outils européens. Puis de l'autre côté, moi, ce que je trouve intéressant, très égoïstement, comme francophone, c'est que ça amène un outil qui est natif francophone, qui comprend bien la langue française et qui peut performer encore mieux que Claude 3, par exemple, ou des outils de Meta qui sont disponibles à l'intérieur. Et ça, je trouve que, d'une part, comme utilisateur, je trouve ça intéressant, mais c'est une belle reconnaissance du savoir-faire et ça va mettre de l'avant le savoir-faire des gens de Mistral. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Mistral, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour tous les clients d'AWS.
Et bonne nouvelle aussi, peut-être aussi pour AWS, Bruno, parce qu'on a vu que AWS, alors, domine toujours les parts de marché, hein, parmi les trois hyperscalers. Le deuxième, c'est Azure, Microsoft, et puis derrière GCP. On a vu, donc AWS avait, sur le trimestre, avait 33% et passé à 31%. Dans le même temps, on a vu Azure qui a pris 1%, qui est passé à 24 à 23 à 24.
Ça veut dire qu'il y a moins de 10 points de différence.
Hein. Ouais, et je suis sûr que si on regarde sur 2024, parce qu'avec OpenAI, parce que le but de pousser les gens vers OpenAI, ChatGPT, c'est que derrière, ils signent avec, ou Copilot, c'est que derrière, ils signent avec Azure. Donc je pense qu'on va avoir une croissance dans les 6 prochains mois là, pour Azure. Et il fallait qu'AWS bouge, hein, parce que sinon, les parts de marché allaient aussi bouger. Bruno?
Oui, puis eux, ils investissent énormément dans Anthropic. C'est des milliards après milliards qui sont investis. Et d'ailleurs, je me souviens, il y avait, avant le Paris Summit que vous avez eu cette semaine, il y a eu en début décembre ou fin novembre dernier à Seattle, il y avait cet événement-là. Il y avait le grand patron d'Anthropic qui venait signer, prendre la main des gens d'AWS pour confirmer leur partenariat. C'était un engin principal de leur stratégie d'IA. Mais de voir Mistral à l'arrivée, moi, je trouve que c'est plutôt rassurant pour tous les joueurs qui sont sur le continent européen parce qu'ils savent qu'avec ça, ils auront un outil qui va répondre à tout le côté, j'allais dire, législatif ou qui encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle sur votre territoire. Puis ça, c'est pas banal non plus.
Ouais, ils auront le choix. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le choix de cloud de ces trois Américains. Voilà.
C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que AWS a adopté une stratégie résolument tournée vers les besoins de ses clients. C'est-à-dire que Microsoft pousse OpenAI parce qu'il a quand même mis 10 milliards dedans, donc c'est un peu normal qu'il pousse. Il pousse un tout petit peu Mistral également, hein, puisqu'il a fait... Enfin, Microsoft est véritablement marié avec OpenAI. Google est marié avec Gemini, puisqu'il l'a développé. Et donc, ce qui est très bien, c'est qu'AWS est agnostique d'un point de vue technologique. Oui. Et donc, va dire à ses clients, mais quels sont vos besoins et en fonction de vos besoins.
En plus, ils conservent les versions open source. Hein,
exactement. Voilà. Ils ont même les versions de Llama, les versions open source de développées par Meta. Et en fonction de vos besoins, si vous voulez de l'open source, on a Llama. Si vous voulez du francophone, on a Mistral. Et donc, c'est un discours qui, moi, me paraît relativement intelligent et qui permet d'éviter de se faire grignoter des parts de marché par Microsoft. Voilà, moi je parierais sur le rebond de AWS.
Surtout qu'ils en ont besoin. Je veux dire, Amazon, c'est pas Amazon. Le reste du business, c'est pas un business très profitable. Tous leurs profits proviennent de AWS, donc ils en ont besoin. Je suis 100% d'accord sur ce que tu viens juste de dire, donc j'ai rien à rajouter là-dessus. Ce que je rajouterais peut-être, c'est quand on est une grande entreprise et qu'on se lance dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Des barrières réglementaires, des barrières de sécurité, des barrières de mais d'où vient la data, est-ce qu'on va pouvoir me poursuivre en justice, etc.
De compétences.
Jusqu'à maintenant, et de compétences évidemment, les entreprises clientes de Azure, donc de Microsoft, c'était un peu décomplexifié là-dessus puisque tous les produits qui proviennent de Azure sont, par définition, il y a un tampon de c'est OK. Mais bon, ce tampon, c'est seulement pour OpenAI et il n'y a que récemment qu'ils ont commencé à intégrer Mistral aussi. Mais via ce tampon, on a accès à GPT-4, le modèle le plus puissant qui existe aujourd'hui. Et là, on voit AWS avec une approche de plateforme qui va pouvoir proposer quasiment la même chose, si ce n'est qu'ils ne proposent pas GPT-4.
Oui. Et moi, je pense aussi... deuxième semestre 2024, on devrait commencer à voir arriver aussi les Chinois. Je pense qu'il ne faut pas les laisser... les Tencent et tout ça ont des modèles aussi...
Oui, alors ça pose un problème de souveraineté.
Oui, ça pose un problème de souveraineté.
Je vois mal les grandes entreprises occidentales confier leurs données à un hyperscaler chinois qui, avec une intelligence artificielle chinoise.
Sur le marché chinois, ils vont y aller sur le marché chinois, bien mais sûr. Une fois qu'ils reviendront en arrière. Je voudrais juste, dernière minute, parce que je voulais qu'on parle de ce sujet très rapidement. Bruno, les 20 ans de Gmail, c'était en 2004, un 1er avril, tout le monde, personne n'y croyait, on disait, c'est un 1er avril, une messagerie qui va nous proposer 1 giga de données, alors qu'on avait 30 ou 60 mégas. Et puis oui, ils l'ont fait, et aujourd'hui, c'est 1,8 milliard d'utilisateurs. Plutôt un succès, pas en entreprise, mais plutôt, et avec 15 gigas aujourd'hui de stockage gratuit. Bruno, on souffle que c'est 20 bougies.
Oui, ben, faut se rappeler hein, qu'à l'époque, c'était pour les Happy Few, parce que de 2004 à 2006, c'était sur invitation seulement, et ça valait de l'or, cette affaire-là, parce qu'on avait accès justement à 1 gigaoctet d'espace. À l'époque, c'était Hotmail, c'était Yahoo Mail qui étaient les grands joueurs.
On avait Caramail en France.
Oui, Caramail.
Dorian Garcia, oui.
Et ça, c'est du souvenir. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde, c'est 1,8 million, si je ne me trompe pas, d'utilisateurs.
Oui, c'est ça.
C'est un beau succès et ça fait que c'est devenu un incontournable et un joueur clé de toute la messagerie du bon vieux courriel.
Et puis faut le rappeler que ça avait été un peu l'élément déclencheur, un peu. C'était le premier pas de Google hors son moteur de recherche. Ouais. Et ça avait enclenché un peu toute la suite hein, avec les Google Maps, Google Docs, les YouTube, les Chrome, enfin voilà, tout ce qui a suivi. Cet empire, oui, toute la famille, voilà, comme tu dis. Merci infiniment à tous les trois, Bruno, Guglielmo Minetti, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique. Je vous conseille vraiment, c'est vraiment un regard sur toute l'actualité qui nous concerne, qui vous concerne, qui vous intéresse. Merci à Zoé Moll, associée chez Balderton Capital, et Enguerrand Renaud, consultant chez Image7. Merci à tous les trois.
Merci,
c'était passionnant encore une fois.